Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour l'Afrique, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 22 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, la République centrafricaine, les musulmans continuent de fuir Bangui. Hier, ils ont été escortés par des soldats français vers Bambari.
Pour rester là-bas, si. Dès que le pays qui calme, je viens ici. Dès que le pays qui calme pas, je vais rester là-bas.
Dans le nord-est du Nigeria, 234 filles sont toujours portées disparues suite à leur enlèvement la semaine dernière. Soudan du Sud, l'ONU accuse les rebelles du SPLA d'avoir tué des centaines de personnes sur la base de leur origine ethnique. En Syrie, et l'élection présidentielle est fixée au 3 juin, malgré la guerre qui a fait plus de 150 000 morts.
Rien n'empêche la tenue des élections. Le régime contrôle à peu près 40% du territoire, 70% de la population, donc il peut tout à fait tenir ces élections. Il est évident que du côté occidental, on ne reconnaîtra pas ces élections.
Et puis ici aux États-Unis, un adolescent a miraculeusement survécu à un voyage dans le train d'atterrissage d'un avion. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
En République centrafricaine, les soldats français ont escorté un convoi de musulmans souhaitant échapper aux violences de la capitale. Environ 100 personnes, des femmes et des enfants pour la plupart, ont quitté Bangui hier, entourés de 150 soldats français et d'un hélicoptère. Craignant les attaques des milices chrétiennes anti-Balaka, ces musulmans ont pris la direction de Bambari, à environ 300 km au nord-est de Bangui. La réaction d'un chrétien au passage de leur convoi.
On n'a pas besoin que les musulmans restent en Bambari ni en Bouya. Il fallait qu'ils partent directement au Tchad là-bas.
Leur voyage vers Bambari s'est déroulé dans le calme, mais les réfugiés n'entendent pas forcément y établir leur résidence permanente.
Pour rester là-bas, si. Dès que le pays qui calme, je viens ici. Dès que le pays qui calme pas, je vais rester là-bas.
Au Nigeria, 234 filles sont toujours portées disparues. C'est le chiffre donné par les parents des victimes enlevées la semaine dernière dans un établissement d'enseignement secondaire de Chibok, dans le nord-est du pays. C'est donc beaucoup plus que le bilan annoncé par les autorités qui ne comptait que 129 filles enlevées, dont 77 toujours portées disparues. La semaine dernière, l'armée nigériane affirmait aussi que la quasi-totalité des victimes avait été retrouvée, des déclarations sur lesquelles elle s'était rapidement rétractée.
Pour l'heure, ces enlèvements n'ont pas été revendiqués, mais Boko Haram est pointé du doigt. Cette secte islamiste a d'ailleurs revendiqué l'attentat qui s'est produit à Abuja la semaine dernière, le jour où les enlèvements ont eu lieu. Dans une vidéo, Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, a raillé les autorités nigériennes qui ont promis à maintes reprises de mettre un terme à l'insurrection islamiste dans les mois à venir.
Soudan du Sud, l'ONU accuse les rebelles du SPLA d'avoir tué des centaines de personnes sur la base de leur nationalité ou de leur origine ethnique. Le point avec Darina Naidoo.
La mission des Nations Unies au Soudan du Sud affirme que ces meurtres ont eu lieu à Bentiu sous contrôle des forces rebelles depuis le 15 avril. L'ONU parle de plus de 200 civils tués et plus de 400 blessés dans une mosquée où des centaines de personnes avaient trouvé refuge pour échapper au combat. La MINUS a fait paraître une vidéo sur laquelle on peut voir plusieurs corps gisant le long d'un chemin de terre à Bentiu. Cette mission onusienne indique que des milliers de personnes ont fui la ville au cours des derniers jours et que 22 000 civils sont venus se réfugier dans les bâtiments de l'ONU. Par ailleurs, les rebelles affirment avoir pris le contrôle de Mayom. L'ONU, au Sud-Soudan, a confirmé des combats autour de cette ville sans préciser qui en a le contrôle. Le Soudan du Sud est ravagé par les combats depuis la mi-décembre. Une crise déclenchée par les accusations de tentative de coup d'État à l'encontre de l'ancien vice-président Riek Machar.
L'élection présidentielle en Mauritanie est fixée au 21 juin. L'opposition, qui avait posé des conditions à sa participation au scrutin, dénonce une annonce unilatérale qui consacre, selon elle, l'échec du dialogue national. Moussa Ould Ahmed, journaliste et responsable de la revue Biladi, explique la ligne de démarcation entre pouvoir et opposition au sujet de la présidentielle.
pour la majorité, on ne peut pas changer les dates qu'ils appellent constitutionnelles. Parce que la dernière date prévue pour la convocation du collège électoral, c'est le 21 avril. Parce que l'élection doit se passer dans les mêmes délais, c'est-à-dire 2 mois avant le scrutin qui est fixé au 21 juin. Donc, le pouvoir voulait amener les opposants à une formule pour leur demander d'accepter la convocation tout en prenant l'engagement d'appliquer ce à quoi va aboutir le dialogue. L'opposition voulait plutôt quelque chose de plus clair. L'accord, c'est des élections consensuelles. Donc, il y a eu ce truc formel qui a fait échouer le dialogue. L'opposition tient une conférence de presse pour expliquer que le dialogue a échoué.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, l'élection présidentielle est fixée au 3 juin, malgré la guerre qui a fait plus de 150 000 morts. L'opposition et de nombreux États réclament le départ de Bachar al-Assad. Est-ce que des élections seront possibles en Syrie? Fabrice Balanche, maître de conférences à l'Université Lyon 2 et directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient.
Rien n'empêche la tenue des élections. Le régime contrôle à peu près 40% du territoire. 70% de la population, donc il peut tout à fait tenir ces élections. Il est évident que du côté occidental, on ne reconnaîtra pas ces élections. Du côté syrien, on va s'efforcer de faire voter une majorité des électeurs inscrits. Et à mon avis, le président Assad sera réélu au premier tour, sans surprise, avec face à lui quelques figurants. La crise, elle va se résoudre sur le terrain militaire, donc ça n'entrave pas le processus électoral. Dans la zone gouvernementale, de Latakia jusqu'à la frontière jordanienne, en passant par Damas, Homs et Hama, la situation est assez calme. Le régime s'est efforcé ces derniers temps de réduire les dernières poches rebelles, le centre de Homs, la ville de Maaloula, Yabroud, enfin toutes des victoires qui permettent finalement de tenir un simulacre d'élection en toute quiétude, sans être victime d'attentats par exemple.
Toujours au sujet de la Syrie, les États-Unis indiquent que des produits chimiques toxiques ont été utilisés en zone rebelle ce mois-ci. Washington affirme qu'il existe des preuves qu'un produit probablement similaire au chlore a été utilisé dans la ville de Kfar Zeita. Le gouvernement syrien est pointé du doigt et le département d'État dit enquêter sur ces allégations. Rappelons que suite aux pressions internationales, le gouvernement du président Bachar al-Assad a accepté de détruire ses armes chimiques l'année dernière.
Nouvelle série d'attaques en Irak. On compte au moins 33 morts et des dizaines de blessés. À Souaïra, au sud de Bagdad, un kamikaze a fait exploser une voiture piégée dans un poste de police. Dans la ville voisine de Madaïn, une autre voiture piégée a frappé un barrage de l'armée. Une bombe artisanale a également explosé à Misharda. 4 attentats à la bombe ont frappé différents quartiers de Bagdad lundi soir, tuant au moins 14 personnes. Ces attentats n'ont pas été revendiqués, mais les attaques se multiplient à l'approche des législatives prévues le 30 avril. Des activistes cherchent notamment à saper le gouvernement à dominante chiite.
La Corée du Nord pourrait préparer un nouvel essai nucléaire souterrain. Tel est l'avertissement lancé par l'armée de son voisin du Sud. Le ministère sud-coréen de la Défense fait état d'une activité accrue sur le site d'essai nucléaire de Punggye-ri. Séoul dit surveiller de près ce site nord-coréen. Le président américain Barack Obama doit se rendre cette semaine en Corée du Sud. La Corée du Nord pourrait profiter de cette visite pour organiser une provocation, estiment certains analystes. Notons que Pyongyang a procédé à des essais nucléaires en 2006, en 2009 et en 2013, en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le mois dernier, la Corée du Nord a fait savoir sans précision qu'elle s'apprêtait à organiser une nouvelle forme d'essais nucléaires.
Et puis un adolescent californien de 16 ans a miraculeusement survécu à un voyage de plus de 5 heures dans le train d'atterrissage d'un avion se rendant à Hawaï. Le garçon qui habite San José a fait une fugue dimanche, les précisions de Timothée Donangmai.
Il a escaladé la clôture de l'aéroport local, puis s'est dissimulé dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Hawaiian Airlines. Il a été découvert sur le tarmac de l'aéroport de Maui par le personnel aéronautique, après un vol de quelque 3800 km. Marvin Monitz est un responsable de l'aéroport de Maui. Il n'était pas trop coopératif ou communicatif sur le coup et les services de sécurité ont été appelés. À leur arrivée, ils ont posé des questions à l'adolescent et ainsi que je l'ai dit, il n'a pas été coopératif. Nous avons fait intervenir les services de sécurité et il a été interrogé par la TSA et le FBI. la TSA étant l'agence chargée de la sécurité de transport aérien ici aux États-Unis. Selon le FBI, le garçon était inconscient durant une bonne partie du voyage à cause du manque d'oxygène et des températures extrêmes à des altitudes pouvant atteindre 11 500 mètres. Il est exceptionnellement chanceux d'avoir survécu, a déclaré un porte-parole de la compagnie Hawaiian Airlines.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guerriec. En République démocratique du Congo, le trafic des bateaux sur le lac Kivu entre Bukavu et Goma est bloqué depuis une semaine. Les armateurs sont en grève et dénoncent l'instauration par le gouvernement provincial du Nord Kivu d'une nouvelle taxe dite d'embarcation des marchandises. Idriss Fall a joint Goma, Julien Paluku Kaonja, gouverneur du Nord Kivu.
Effectivement, il y a une grève des armateurs à cause d'une taxe qui est instituée par une loi de la République démocratique du Congo. Il s'agit de 1 dollar par tonne de marchandises qui quittent la ville de Goma vers Bukavu. Et donc pour nous, toutes les lois, toutes les ordonnances, tous les édits, pour que désormais les gens commencent à payer leurs taxes. Et quand on est revenu sur ça, pour que chacun puisse acter ses obligations, eh bien, voilà pourquoi ils sont entrés en grève. Et donc, on est en train de les sensibiliser.
Mais actuellement, ce sont les populations qui payent.
Non, je ne pense pas que la population doit s'inquiéter. Parce que par tonne de marchandises, on doit payer 1 dollar. Donc, ça ne peut même pas influencer les prix des marchés de consommation. Parce que 6 000 kilos doivent payer 1 dollar seulement. Vous comprenez que par rapport à 100 kilos, on paye 0,1 dollar. Et on ne comprend pas pourquoi les gens s'agitent. Alors que c'est une taxe qui est dérisoire, qui permet à ce que simplement l'État puisse recouvrer certains moyens. Donc nous sommes en train de parler avec les armateurs, de faire comprendre aux gens que la guerre est finie et qu'on doit s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de l'État.
Mais ça fait une semaine que ça dure et les marchandises ne circulent plus. Les prix ont commencé à monter à Goma et à Bukavu.
Oui. J'ai demandé à mon ministre provincial qui est en charge des transports de poursuivre très rapidement le pourparlers qu'il a amorcé depuis une semaine avec les armateurs. Je crois que d'ici peu, on va devoir trouver solution à ça. Il n'y a pas de problème majeur parce qu'à mon sens, on ne doit pas aussi développer une culture d'incivisme fiscal. Avec la fin de la guerre, nous devons ramener la population à comprendre que lorsque quelqu'un s'adonne à des activités économiques, à des activités commerciales, ce monsieur-là doit s'acquitter des droits qui sont dits à l'État. Ça n'a rien à voir avec une politique de répression vis-à-vis de la population. C'est simplement réveiller la culture fiscale dans les chefs de nos populations qui, hier, étaient en guerre. Aujourd'hui, doivent comprendre que le temps de la guerre finit. Nous devons tous nous acquitter de nos obligations respectives.
Julien Paluku, Kaonja, gouverneur du Nord Kivu.
La Voix de l'Amérique sur Internet, www.lavoixdelamérique.com.
Le voyage cette semaine du président Barack Obama en Asie intervient dans un climat d'inquiétude concernant les ambitions territoriales de Pékin dans la région. Des préoccupations accentuées par les récentes actions de la Russie en Ukraine et la possibilité que les stratèges chinois ne prennent la Crimée comme un modèle pour régler les différents territoriaux avec ses voisins. Bagassikoura.
L'Ukraine peut sembler bien loin de l'une des régions clés de l'économie mondiale, mais les responsables américains ont ce pays à l'esprit alors que le président Obama s'apprête à se rendre en Asie. S'exprimant lors d'une conférence sur la sécurité en Indonésie le mois dernier, l'amiral Harry Harris, commandant de la flotte américaine du Pacifique, a évoqué la nécessité pour tous les pays de la région de travailler pour éviter une situation de type Crimée. De son côté, Daniel Russell, le secrétaire d'État adjoint pour l'Asie de l'Est et du Pacifique, a déclaré aux législateurs américains que les sanctions que l'Union européenne et les États-Unis ont prises contre la Russie devraient avoir un effet dissuasif en Chine. Ces deux dernières années, la Chine a exercé une pression croissante sur le Japon dans leurs différents concernant des îles de la mer de Chine orientale. Elle y a envoyé des patrouilles de sa garde côtière et des drones pour faire valoir ses revendications. L'année dernière, la Chine a décrété unilatéralement une zone d'identification de défense aérienne comprenant les îles ville en question. Pour Jean-Pierre Cabestan, politologue à l'Université Baptiste de Hong Kong, il y a clairement une tentation de Pékin de modifier le statu quo. Mais, ajoute-t-il, il existe de grandes différences entre le différent territorial en Asie et ce qui s'est passé sur la péninsule de Crimée. D'une part, le Japon est un allié des États-Unis et un traité de sécurité existe entre le Japon et les États-Unis qui oblige les États-Unis à intervenir. La Chine le sait, je pense, davantage aujourd'hui parce que l'administration de Barack Obama a envoyé un certain nombre de signaux très clairs, des signaux de plus en plus clairs à la Chine pour signifier que les États-Unis s'impliqueront dans un éventuel conflit armé au sujet des îles Senkaku. Toutefois, Cabestan estime qu'il est difficile de prédire si la Chine va s'inspirer de ce qu'a fait la Russie en Crimée. Dans le différent concernant les îles inhabitées de la mer de Chine orientale connue sous le nom Senkaku au Japon et île Diaoyu en Chine, les options de Pékin sont limitées. Le Japon contrôle les îles et les tentatives des militants chinois dans le passé, même pour les atteindre, n'ont pas duré longtemps. Shi Tao, politologue à l'Université des langues étrangères de Pékin, dit que si le gouvernement chinois devait soutenir, par exemple, un groupe de pêcheurs à débarquer sur les îles pour ensuite en proclamer la souveraineté, cela pourrait se retourner contre eux. Tout le monde sait que les îles ne peuvent pas supporter un établissement humain à long terme. Si vous faites ça, ce serait évidemment un piège qui serait mis en place par le gouvernement chinois et qui ne ferait que provoquer critiques et condamnations internationales. Les États-Unis disent être neutres dans les conflits, que ce soit à l'Est ou dans la mer de Chine du Sud, mais les efforts de Washington pour rééquilibrer sa position dans la région en consolidant les relations diplomatiques, économiques, politiques et de sécurité suscitent des inquiétudes en Chine. Certains y voient dans cet effort dénommé « pivot vers l'Asie » une tentative de contenir la montée en puissance de Pékin. Ils affirment également que les actions de Washington ragaillardisent ses alliés dans la région et accroissent les tensions. Quelques jours avant que le président Obama entame son voyage, le Japon a annoncé sa décision d'étendre sa présence militaire. Le déploiement de troupes et de radars sur une île près de la zone contestée de la mer de Chine orientale. La Chine indique qu'elle cherche à résoudre pacifiquement ses conflits dans la région et a accusé le Japon de cinéma sur les menaces régionales pour justifier son expansion militaire. Le Japon sera la première étape de la tournée du président Obama dans la région. Il se rendra ensuite en Corée du Sud et dans deux autres pays d'Asie du Sud ayant des conflits territoriaux avec la Chine dans la mer de Chine du Sud, les Philippines et la Malaisie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les suites du naufrage du navire Sewol en Corée du Sud. La présidente Park Geun-hye a critiqué l'équipage pour avoir abandonné le navire pendant qu'il coulait avec à son bord des centaines de personnes. Ce qui, selon elle, équivaut à un meurtre. Le capitaine et au moins 6 membres d'équipage ont été arrêtés. Les plongeurs ont récupéré 87 corps, mais 210 personnes sont toujours portées disparues. Jean-Roger Billon.
Le bilan de la tragédie du Séoul s'est alourdi quand les plongeurs ont eu accès à l'intérieur du navire dans un ultime effort pour tenter de récupérer davantage de corps. La présidente de la Corée du Sud, Park Geun-hye, a eu des mots durs à l'endroit des responsables du ferry.
La conduite du capitaine et des membres d'équipage est inacceptable. C'est totalement dépourvu de sens ce qu'ils ont fait et c'est comme un meurtre. Le capitaine a ignoré les ordres d'évacuation du centre de contrôle du trafic maritime immédiatement après l'accident. Les membres d'équipage ont dit aux passagers de rester là où ils étaient avant de prendre eux-mêmes la fuite. C'est légalement et moralement inimaginable.
Le capitaine Lee Jun-suk et plusieurs membres de l'équipage sont en état d'arrestation. Ils sont accusés de négligence et de viol du droit maritime. Le ferry a coulé mercredi avec 476 personnes à bord. La plupart étaient des lycéens. 179 personnes ont pu être sorties du bateau avant son immersion et depuis, plus personne. L'angoisse tourne à la douleur pour les centaines de proches des victimes qui campent au gymnase de Jindo. Le frère de Kim Hana faisait partie des 339 étudiants et enseignants du lycée Danwon à Anzan, au sud de Séoul.
Je garde l'espoir, Mais maintenant, j'ai de la peine au cœur. Même si on pompe l'air dans le navire, les gens ne pourront pas survivre sans eau ni nourriture pendant 6 jours. Je me demande si mon frère pourrait encore être vivant.
Les causes du naufrage du navire de 6300 tonnes restent à déterminer. Les survivants disent avoir entendu un bruit avant que le ferry ne commence à sombrer, ce qui fait croire qu'il aurait heurté un rocher submergé. Les enquêteurs se penchent également sur la possibilité que les nombreux véhicules à bord aient pu glisser pour déséquilibrer le bateau. Les médias sud-coréens font aussi état de récentes réparations sur le navire qui auraient pu être à l'origine des problèmes. Finalement, beaucoup de supputations en attendant la fin de l'enquête.
L'ancien boxeur américain Robin Hurricane Carter est mort cette semaine à Toronto, au Canada, des suites d'un cancer de la prostate. Il avait 76 ans. L'erreur judiciaire dont Hurricane a été victime dans les années 60 avait fait de lui un symbole de l'injustice raciale aux États-Unis. Idrissa Seydoudia.
Hurricane Carter avait été reconnu coupable par un jury exclusivement blanc du meurtre de 3 Blancs en 1966 dans un bar du New Jersey. Même sort pour John Artis, un autre Africain-Américain. Le jury avait fondé son verdict essentiellement sur le témoignage de 2 voleurs qui, plus tard, sont revenus sur leur déclaration. Dès le début, Carter et Artis ont clamé leur innocence. Un groupe de célébrités et d'activistes en était convaincu et réclamé leur libération. Parmi eux, Mohamed Ali et un certain Bob Dylan. Hurricane, cette chanson de Bob Dylan, allait en 1975 immortaliser la controverse, tout comme en 1999, le film du même nom qui a valu à l'acteur Denzel Washington le Golden Globe du meilleur acteur et une nomination aux Oscars. Après un second procès suivi d'une autre condamnation en 1976, un juge fédéral a annulé ce verdict en 1985, concluant que le premier jugement était influencé par un appel au racisme plutôt qu'à la raison et par la dissimulation plutôt que par la transparence. Après sa libération, Carter est allé s'installer à Toronto, au Canada, où il a consacré le restant de sa vie à animer l'association de défense des victimes d'erreurs judiciaires.
Et tout de suite, place au sport avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Morgane.
Réunion de crise hier soir à la Ligue gabonaise de football.
Oui, le président de la LINAF a rencontré hier soir les dirigeants de l'AC Bongoville. En effet, dimanche après-midi, le gardien de but du club est décédé en plein match. Le Togolais Sylvain Azougoui a été touché à la tête à la suite d'un choc avec un attaquant du CMS. Malgré l'intervention des secours, le joueur n'a pu être réanimé. Il a été prononcé mort quelques heures plus tard à l'hôpital de Franceville. Entre douleur et incompréhension, écoutez la réaction ce matin de l'entraîneur de l'AC Bongoville, Thomas Liby.
L'attaquant, il est rentré sur lui. Lui, il avait déjà le ballon couché. Le gardien, lui aussi, en voulant l'esquiver, il lui a donné le derrière de la tête. Et puis, ben voilà, c'est le genou de l'attaquant qui lui prend justement au niveau de la tête. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé, quoi. Je pense pas que les secours qui sont arrivés, c'était déjà des professionnels. Déjà, les brancardiers qui étaient au stade, c'est pas des spécialistes. Maintenant, bon, on a passé 6 minutes à vouloir le ramener. Et après, on l'a remis dans l'ambulance pour le transporter à l'hôpital de Bongoville, où déjà, il y avait une grève, donc il y avait aucun médecin. Et donc, je pense que c'est le temps passé au niveau de l'hôpital de Bongoville, après, pour prendre la route, pour aller justement sur Franceville, qui a causé un gros problème. Il avait perdu déjà beaucoup de temps au stade. Et les 30 minutes perdues, par exemple, à l'hôpital de Bongoville, je pense que c'est ça qui a causé ce traumatisme-là. Donc, avant qu'on arrive avec lui au niveau de l'hôpital de Franceville, je pense qu'il était déjà passé.
Thomas Liby, l'entraîneur de l'AC Bongoville.
Ligue des champions en Europe.
Diminué par une petite gêne à un genou, l'attaquant camerounais de Chelsea, Samuel Eto'o, a été contraint de déclarer forfait pour la demi-finale aller qui se jouera tout à l'heure sur le terrain de l'Atlético Madrid.
118e édition du marathon de Boston avec la victoire d'un Américain.
Meb Keflezighi, premier coureur américain à s'imposer sur le plus vieux marathon du monde depuis 1983. Keflezighi est né à Asmara en Érythrée. La course féminine a débouché sur un nouveau record de l'épreuve avec la victoire de la Kenyane Rita Jepto en 2h18.57. Jepto, tenante du titre, s'impose pour la 3e fois dans le Massachusetts. Enfin Morgan, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain, les playoffs.
Memphis, Oklahoma 111-105, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers 98-138. On passe à la page musicale et ce matin, Roger Muntou nous propose du Justin Bieber. Salut Roger.
Salut Morgane. Justin Bieber fait toujours la une de l'actualité. La Maison-Blanche répond à la pétition réclamant l'expulsion de l'artiste du territoire américain. Interpellé via une pétition signée par près de 275 000 Américains demandant son départ, la présidence américaine a invoqué des dispositions l'autorisant à ne pas s'y saisir de certaines de ses demandes et a toutefois choisi de ne pas répondre directement. Ce matin, Justin nous chante « You Smile ».
Rappelons que la justice américaine accuse Justin Bieber de conduite sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, avec un permis périmé et de résistance à son arrestation le 23 janvier.
Oui, Morgan, l'artiste sera jugé le 5 mai à Miami, en Floride, pour une affaire de rodéo sauvage en voiture.
Justin Bieber, You Smile, merci Roger.
De rien, Morgan, bonne journée.
Roger Muntou, que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show. Ainsi s'achève Le Monde d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guirec au micro. Je vous souhaite une excellente journée.
Nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.